Pardon, si vous voulez bien, au moins sur Van, me garder juste caméra, ça me permet de voir moi quelqu'un en face, sinon j'ai l'impression de parler devant mon écran tout seul. Si au moins à Van, vous pouvez juste me montrer quelques visages, ça m'évitera quand même d'un grand cran sentiment de solitude. Voilà.
D'accord.
Je vous remercie, excusez-moi, mais sinon, vraiment, c'est étrange. Je commence quand même par un temps de prière. J'aime toujours commencer tout enseignement par le cantique de la sagesse, donc au chapitre 9. Voilà, je vous propose donc de vous y joindre par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il domine sur tes créatures. Qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints daignent l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Mes meilleurs voeux à mon tour pour commencer cette année. Je suis donc le Père Georges-Henri Pérès. Ma fonction principale est directeur de la publication du journal diocésain Chrétien en Morbihan. Voilà, je préfère être présent parce que ça me permet de donner des bulletins d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à connaître ce journal qui fait un trait pour tout le diocèse. C'est une double gageure pour moi de vous parler ce soir de la souffrance, avec ce titre « Parler de la souffrance interdit » pour une interrogation. Double gageure parce que le sujet est très compliqué et deuxièmement, j'ai une fièvre de cheval. J'espère ne pas être trop confus. Je me remets à votre indulgence pour pouvoir vous donner ce qui est moins ce qui est un enseignement, mais voilà, je vais essayer de. Alors, on peut pas faire autrement par ce biais-là que d'être un tout petit peu dogmatique, en tout cas, très universitaire comme manière de faire. N'hésitez pas pour les questions, les remarques, etc. Je pense que ça pourra avoir lieu ensuite dans chaque. Dans chaque lieu de rencontre, ce sera quand même un peu plus facile. Donc, premièrement, voilà. Donc, j'ai la crème. Mais deuxièmement, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder. Dès lors qu'on prend cela, en fait, on avait pensé à un titre au départ pour aborder la souffrance. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Simplement. Deux choses qui sont limitées finalement dans ce titre. Le but n'est pas pardon, de donner un sens à la souffrance, de faire une théologie de la souffrance, etc. D'abord parce que je ne suis pas compétent pour cela. C'est plus largement tout ce qui rejoint cette question, ce grand mystère du mal. Et d'autre part, l'expression « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» soit on l'a en référence avec le film, soit justement on risque de tourner en dérision une question qui ne l'est absolument pas. Je vous disais que le sujet est délicat. C'est le cardinal Veuillot, archevêque de Paris, sur son lit de mort, qui disait cela. Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est et j'en ai pleuré. Si j'obéissais au cardinal Veuillot, là, je couperais et je vous disais, bon, ben voilà, parler de la souffrance, je ne peux pas. D'où ce point d'interrogation. Est-ce que c'est interdit d'en parler? C'est une vraie question. Parler de la souffrance, mon but est, il y a sans doute, juste en introduction, deux choses, bien définir nos termes. Pourquoi parler de la souffrance? C'est réussir à parler d'abord de sa souffrance. Ça n'est pas obligatoirement la chose la plus évidente en soi, réussir à exprimer tant bien que mal sa propre souffrance. Ce qui, par conséquent, dans un parcours d'accompagnement, c'est réussir à faire parler celui qui souffre de sa souffrance. Ça n'est surtout pas tenir un discours théorique. Voilà l'interdit, discours théorique sur la souffrance, d'une idée, de parler de la souffrance comme une idée abstraite, une théorie toute faite sur le sujet. Ça n'est absolument pas le but lorsqu'on évoque cela. C'est réussir à faire parler celui qui souffre de sa souffrance et par conséquent l'atteindre. Je crois que tout de suite, il faut avoir cela en tête, sans quoi on a des discours et on parle de quelque chose à quelqu'un et on parle de quelque chose qu'en plus on ne vit pas. Par conséquent, notre discours est complètement vide, comme le disait le cardinal Veuillot. Je veux dire par là qu'il faut avoir tout de suite en tête ce que je vais essayer de faire, c'est ouvrir un certain nombre de pistes de réflexion, autour de cela, mais certainement pas, un monolithe. Donc tout est sujet, j'allais dire, à discussion dans ce que je peux vous proposer. Mais voilà, que nous puissions avoir au moins cette simplicité et cette humilité d'abord, parce qu'il faut partir de cela, cette humilité de nous dire « jamais je ne pourrai comprendre, saisir, expliquer, même donner un sens à la souffrance vécue par un autre ». C'est cela, le vrai interdit finalement, il est là. Si je cherche un discours qui peut être lénifiant sur qui peut être parfait même théologiquement, une théologie de la croix, une théologie de la passion, une théologie du serviteur souffrant, je peux la faire. Et il y a de magnifiques ouvrages pour cela, donc moi je peux pas la faire d'ailleurs, je suis vraiment pas compétent. Mais si je m'arrête à cela, je suis hors du propos. Justement, je franchis un interdit qui est, cette idée, ce monolithe que on pose et qui risque de ne pas prendre, de ne pas saisir d'abord ce que vit la personne. Car il y a, une certitude, certes notre société est plus à même, a plus de facilité qu'autrefois à exprimer à haute voix la souffrance. J'allais dire, la souffrance, elle était réservée, si on veut, autrefois au... c'est le romantisme qui finalement l'a fait jaillir, où je dois exprimer la souffrance par la musique, par le roman, par la poésie, etc. Mais qui va être de l'ordre du mal-être ou mais ça reste quelque chose qui était, j'allais dire, refermé de l'ordre des expressions artistiques. Notre monde contemporain est plus à même d'écouter une souffrance physique, psychique, il ne faut pas l'oublier, cette souffrance-là, elles vont de règle générale de pair, le corps comme l'âme souffre, et face à cela, qu'est-ce que je vais avoir? comme réponse, je vous dis tout de suite, j'en ai pas. C'est aussi simple. Il n'y a pas de réponse. En revanche, des pistes de réflexion qui permettent, voilà, à ceux qui justement accompagnent, qui sont aux côtés des personnes les plus en souffrance, un, de réussir à ce qu'elles réussissent à l'exprimer, cette souffrance. Et ensuite, alors ouvrir des chemins de sens. J'insiste, dès le départ, je le redirai souvent, ouvrir des chemins de sens et non pas imposer un sens qui serait le sens chrétien de la souffrance. Grandin, il y a deux écueils. Peux même pas vous demander si ça va parce que je ne vous entends pas. Mais j'espère que ça va, que vous comprenez ce chemin. Grandin, il y a deux grands écueils. En fait, qui reviennent quasiment au même, mais deux grands écueils, en tout cas que j'ai résumé en deux expressions, si vous voulez, deux grands écueils dans lesquels on risque de plonger justement rapidement. C'est toujours bon de les rappeler. Premièrement, il faut offrir ses souffrances. Le fameux « il faut offrir ». Quelque chose que l'on peut entendre, voilà, il faut faire des sacrifices, il faut réussir à offrir. C'est une manière de reprendre la phrase du Seigneur Jésus aux disciples, qui veut me suivre doit prendre sa croix. En gros. Ou une autre manière de comprendre, alors c'est surtout ça qu'on va avoir dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Donc c'est Colossiens 1, 24. Et prenons cette citation. Il y a toute une théologie de la croix qui a sa portée, mais très rapidement, les souffrances que tu as, offre-les. Offre-les au Seigneur, tu t'associes à sa croix, puisque de toute façon, Jésus a dit que pour être chrétien, il faut porter cette croix. Vous comprenez rapidement que dans ces propos, on peut glisser vers un dolorisme. Une théologie de la croix qui, au demeurant, n'est pas invalide, à une période où soulager la souffrance est quelque chose de relativement difficile. Vous prenez la période médiévale, vous prenez la période du deuxième, quatorzième siècle avec la Grande Peste, etc. Comment est-ce que je donne un sens à la souffrance quand, à l'époque, l'épidémie provoque la mort d'un tiers de la population européenne. Donc c'est pas rien. Donc une souffrance réelle, palpable. La théologie de la croix va avoir un sens profond. Je cherche surtout pas à l'invalider du tout. Justement, elle va permettre, d'un point de vue de la société entière, d'ailleurs, puisque la société médiévale et chrétienne, de trouver un sens. En l'occurrence, je crois profondément que nous ne devons surtout pas entrer dans cette démarche-là, parce qu'on n'est pas sur une pensée générale, mais face à une personne. Tu souffres, offre-le au Seigneur. C'est à la fois rapide et parfois injurieux. Bien plus, ça peut être l'objet d'une théologie ou d'une croyance, parfois un peu erronée. C'est en gros, plus on souffre, plus on cumule de points, un peu comme des miles, vous savez, pour l'avion, de points pour entrer au paradis. Comprenons bien tout de suite que là, on est face à quelque chose qui est réellement erroné. On est de l'ordre du dolorisme. Je répondrai un peu plus loin, mais je voulais juste commencer par première objection, face à la souffrance, parler de la souffrance, dire de but en blanc, vous avez qu'à offrir ou t'as qu'à offrir, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On le dit rarement de cette manière-là, mais faut associer tes souffrances à celles du Christ. C'est une autre manière de le dire qui, somme toute, n'est certainement pas ce par quoi on doit commencer. Il faut, pour pouvoir entrer dans une théologie de la croix, excusez-moi. J'offre tout ça au Seigneur, vous en faites pas. Il faut, pour pouvoir entrer dans une théologie de la croix, déjà avoir un profond cheminement personnel qu'on peut pas imposer à la personne. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à bien comprendre. Donc c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, j'allais dire, c'est une autre expression qui revient à peu près au même. Donc le premier écueil, c'est voilà, il faut offrir. Et l'autre écueil, c'est eh bien le qu'est-ce que justement cette expression que je voulais prendre au départ pour cet enseignement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est-à-dire de mettre. Et ça revient à peu près au même, d'ailleurs, que la précédente objection. Mettre Dieu comme responsable de la souffrance et de la mort. Placer Dieu de ce côté-là. On retrouve cette question dans le livre de Job. C'est vraiment cela. Job, alors, vous connaissez l'histoire de Job. Job, est un homme juste, perd tout ce qu'il a, et ses amis, trois de ses amis viennent le voir, et au bout d'un moment, après un silence bien pesant, les trois amis lui disent, bon bah, si tu souffres, bah, c'est que tu l'as mérité. C'est le bon Dieu qui t'a puni. Vous voyez, cette expression terrible qui ne doit jamais venir sur nos lèvres. C'est le bon Dieu qui t'a puni. Si tu souffres, c'est que tu le mérites. De même manière, je doute et j'espère pour tous ceux qui visitent les malades que ça vous viendrait même pas à l'idée de le leur dire de cette manière-là, mais parfois, et particulièrement pour la personne qui souffre, ça n'est pas que sur le mode de l'humour de dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que ça arrive. La question du sens. Alors là, c'est très, très important. Derrière cette expression, la question du sens de nos souffrances et du sens, pas du sens, mais de ce que nous faisons de la personne de Dieu, de ce que nous faisons de la personne de Dieu, est toujours derrière. Si je le subis, c'est peut-être que je le mérite. Et vous comprenez, Job très clairement va s'opposer. Job, clairement, dans le livre de Job, va profondément s'opposer à cette pensée d'une rétribution exacte ou quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en observant sa propre existence. Bref, voilà, il y a quelque chose que Job refuse terriblement face à cela. Et même que Jésus va refuser. Si vous prenez le... Pardon, si vous prenez l'évangile de Saint Jean au chapitre 9, le tout début du chapitre 9, le passage de l'aveugle-né, en passant, voilà ce que dit ce passage. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La question est terrible, hein. La question des apôtres est terrible, mais c'est une question donc c'est toujours intéressant, pas tout de suite de la rejeter, mais qui habite. Les apôtres sont humainement comme nous, donc qui habite humainement en tout cas les apôtres. Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché. Jésus renvoie cette question de la souffrance vécue, la souffrance subie, n'est pas de l'ordre d'une conséquence directe de notre péché personnel. Ça, c'est extrêmement important. Notre foi chrétienne repose sur une certitude. Et là, c'est la réponse, hein, c'est Dieu n'est pas responsable de la souffrance et de la mort. Notre foi chrétienne repose sur la certitude que cela n'est pas voulu par Dieu. On le lit dans le livre de la sagesse, mais en fait, toute la Bible est de cet ordre-là. La Bible ne nie pas, absolument pas, que la souffrance traverse l'existence humaine, traverse l'histoire. La Bible, c'est une souffrance du début à la fin. Pas tout à fait, d'ailleurs. C'est une souffrance à partir du chapitre 3 de la Genèse et qui s'achève au chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est intéressant. Mais si vous lisez le récit de la création, il n'y a pas justement, cette souffrance n'est pas dans le monde et dans le projet divin, elle n'y est pas. Dieu vit que cela était bon, nous l'entendons tout au long du récit de la création. Et de l'autre côté, à l'achèvement de l'Apocalypse, alors qu'il peut nous paraître justement le déferlement dans le livre de l'Apocalypse, le déferlement de cette souffrance dans l'histoire, eh bien c'est tout le contraire, puisque le dernier, les deux derniers chapitres se terminent par cette Jérusalem céleste, et très clairement, voilà ce qu'il y a, Apocalypse au chapitre 21, les versets 3 et 4, connaissons bien le passage, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ». Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. C'est très important d'avoir toujours pour nous en tête cela. C'est à la fois, donc, à travers ces deux écueils, c'est aussi la manière dont pour essayer de, je cherche vraiment des pistes pour pouvoir entrer dans la notion de souffrance. Premièrement, avoir la certitude que Dieu ne veut pas la souffrance et que le projet divin sur l'histoire et sur l'histoire humaine est un projet de bonté, est un projet qui est hors de cette souffrance. Et donc, même si ça peut habiter, c'est là le regard que nous avons vis-à-vis de Dieu. Qui rétribuerait notre méchanceté par un tel quota de souffrance. Et puis le deuxième écueil, donc qui est aussi important, c'est de glisser rapidement vers une théologie de la passion. C'est le Christ qui a porté nos souffrances. Il ne faut pas inverser les choses. J'espère que vous comprenez bien ces deux aspects. Maintenant, comment faire pour pouvoir, à partir de cela, j'ai essayé, j'espère que c'est bon pour vous, voilà, de bien cerner la notion de la souffrance. Dieu n'en est pas le responsable, il ne faut pas aussitôt l'associer au Christ, mais elle est bien présente dans toute l'histoire. Et toute l'écriture déploie réellement cela. Et donc, c'est avec d'abord un regard de foi que nous pouvons alors parler de la souffrance. Finalement, et c'est mon deuxième point, mon deuxième grande partie, après ces écueils, je ne crois pas qu'on puisse parler de la souffrance, mais que face à la souffrance, il nous faut prendre les attitudes du Christ. Nous allons vite vers la parole, mais que c'est d'abord les attitudes du Christ qui, non pas nous feront parler de la souffrance, mais nous permettent de l'accueillir, de l'accompagner, de faire preuve de compassion, d'agir, parfois simplement par le silence. Bref, c'est donc non plus une question de parole, d'un discours, mais d'attitude, je dirais presque de signe, au sens où l'évangile de Saint Jean peut l'entendre. C'est voilà, être signe du Christ qui accompagne la souffrance avant de chercher, avant de chercher réellement à en faire un discours. Nous prenons vite la parole, parfois pour combler le silence. Ça c'est une réalité. D'autant que la souffrance de l'autre peut nous renvoyer très très vite à nos propres souffrances ou à nos peurs de souffrir. À travers la personne de Jésus et ses attitudes, et je vais prendre trois passages de l'Évangile pour vous expliquer voilà ces chemins possibles. À travers ces passages de l'Évangile, le but est de chercher les attitudes plutôt qu'une fumeuse, une théorie fumeuse qu'on essaierait de mettre. Trois choses pour moi qui me paraissent importantes, et c'est Vous pouvez prendre tous les épisodes de l'Évangile. J'en ai sélectionné 3 spécialement. Il y a bien plus d'attitudes du Seigneur. Mais ces 3 attitudes, c'est écouter, poser son regard et redonner sa dignité. Écouter, poser son regard, redonner sa dignité. Vous savez, dans notre prière, on est souvent à beaucoup parler. C'est Samuel qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». En règle générale, dans notre prière, c'est plutôt « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle ». La parole va toujours un peu trop vite pour nous. Et je crois que la première attitude, et c'est celle de Jésus, c'est celle de l'écoute. Tout au long de la Bible, vous prenez les psaumes sont émaillés de ces paroles de l'homme souffrant vis-à-vis du Seigneur. Excusez-moi. Ces paroles de l'homme souffrant, donc, vis-à-vis du Seigneur, le livre des psaumes. Alors, n'oubliez pas une chose, pardon, c'est une petite parenthèse. Les psaumes, en hébreu, le livre des psaumes, c'est le livre des louanges. Et l'homme qui souffre, qui s'adresse à Dieu, adresse aussi une forme de louange. Il faudrait des heures pour expliquer cela, mais tous les psaumes sont une adresse vis-à-vis de Dieu, et même dans l'expression de la souffrance. Alors je reprends pas tous les psaumes, hein, ils sont innombrables à ceux qui marquent justement cette douleur et cette souffrance, mais dans l'expression même du psalmiste de sa souffrance vis-à-vis de Dieu, il y a une forme de louange. Ça fait partie du mystère de ce grand livre des psaumes. Toujours est-il que la première attitude du Seigneur, mais comme celle de Dieu à l'intérieur des psaumes, c'est d'écouter. Vous avez pour cela l'épisode de Jésus et de Bartimée. Je suis dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. C'est très intéressant dans ce passage-là, parce que justement, vous avez l'homme qui crie sa souffrance, et vous allez voir comment la manière d'écouter n'est justement pas la même. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabbouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Ce qui est frappant dans cet évangile, et c'est, voilà, on est face à la souffrance, elle peut être silencieuse, mais à l'image de Bartimée, il y a toujours un cri. Alors c'est paradoxal de parler d'un cri silencieux, mais il y a toujours un cri exprimé. Ça peut être rendu, vous le savez bien, par une attitude physique, par justement un mutisme profond, par alors elle peut être exprimée à haute voix, etc. Ce cri, il est là, il est toujours là, et c'est ce cri-là qu'il faut d'abord entendre. Comprenez bien, donc parler de la souffrance, c'est inutile, c'est écouter d'abord et avoir l'attention vis-à-vis de ce cri. Vous voyez bien l'attitude dans l'évangile que je viens de vous lire, l'attitude de Saint Jean, de la foule. Dans un premier temps, on le rabroue, tu nous gênes. Parce que ce cri nous gêne, il faut être honnête aussi. Ce cri a de quoi parfois nous gêner, ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il nous met face à nos propres souffrances, il nous met face à nos peurs de souffrir, il nous met face à notre, notre incapacité à répondre décemment. Enfin, vous voyez, n'ayons pas peur de nommer, voilà, parler, être face à celui qui crie sa souffrance, nous met, voilà, nous-mêmes doit nous mettre en mouvement, ou en tout cas, s'il y a en nous d'abord ce mouvement intérieur de rejet, alors pas obligatoirement en rabrouant, mais on peut être sourd hein, face à celui qui crie assez facilement, ou ah ben j'avais pas compris. Vous savez, ces choses dans lesquelles on se justifie, eh bien non. C'est se mettre pleinement à l'écoute comme le Christ le fait. D'ailleurs, la foule, hein, à partir du moment où le Christ entend le cri, la foule va changer. Et finalement, être celui qui écoute à côté de celui qui souffre, c'est accepter d'être le Christ qui écoute, entre guillemets, d'être la figure de ce Christ qui entend. Ça, c'est notre vocation en tant que telle. C'est courage, il t'appelle. Ça nous permet de garder une véritable humilité aussi. Qui donc peut entendre la souffrance de la personne mieux que le Seigneur Jésus ? Moi-même, je n'en suis pas capable. Et donc, mon écoute doit être le signe. Voilà pourquoi je vous dis que ce sont des attitudes ou des signes. Mon écoute doit être le signe du Christ qui entend la souffrance. Dans cet épisode, toujours de Bartimée, la chose qui peut être la plus étonnante, c'est Jésus qui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» J'aurais été très étonné par ça. Il est aveugle, Seigneur, donc... On n'a pas besoin de demander. Et ça aussi, par l'attitude de l'écoute et notre attitude de l'écoute, nous permettons à la personne qui souffre de mettre des mots, de mettre des paroles sur ce qu'elle vit. Peu importe si au départ ça nous paraît, ça nous est difficile, si ça peut nous paraître même à certains moments... voilà, de l'ordre de la colère contre Dieu, contre les hommes, peu importe. Être capable de laisser la personne exprimer à haute voix sa souffrance, c'est permettre à cette personne de ne plus être identifiée à cette souffrance. Dans l'écoute, il y a cela. L'aveugle, tel qu'il est nommé, donc l'aveugle, c'est sa définition, il est aveugle. En exprimant, Bartimée, en exprimant ce qu'il veut, Rabboni, que je retrouve la vue. Il ne dit pas que je ne sois plus aveugle, il met que je retrouve la vue. Son mal n'est plus tout lui-même. Son mal n'est plus sa définition. Quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire qu'en exprimant par la parole, en disant sa souffrance, son handicap, en l'exprimant, Bartimée le met, comme on dirait en philosophie, qu'il l'objective. C'est-à-dire comme un objet. Il est plus collé à lui-même, au point de ne faire plus qu'un avec lui. C'est la cécité. Ça n'est pas Bartimée. La souffrance que je vis en pouvant la dire, même si c'est avec des mots violents, même si c'est avec les mots de la colère, si je peux l'exprimer à ce moment-là, je ne colle plus, je ne suis plus amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. C'est l'expression contemporaine. Voilà, pas d'amalgame. Et le plus grave amalgame, c'est bien celui-là, la personne qui s'identifie à sa souffrance. Et donc, par l'écoute, il y a une manière, en définitive, vous allez voir, tout converge vers le dernier point qui est redonner sa dignité, mais il y a une manière, voilà, de faire en sorte que la personne ne se confonde plus avec sa souffrance. Deuxième point, je vous disais, le Seigneur fait cela, c'est poser son regard. Poser son regard. C'est d'une extrême importance. Et vous savez à quel point dans les évangiles, le regard du Christ est le signe. Alors peut-être plus particulièrement chez saint Marc. Là, j'ai pris un passage de saint Luc, mais le regard que le Christ pose sur les personnes, c'est un regard, il l'aimasse, ça va être un regard, là on va voir, de compassion. Ce regard est d'une extrême importance. J'ai hésité en fait sur deux passages pour parler de ce regard. J'avais le choix entre la veuve de Naïm, celui que j'ai gardé finalement, et puis, vous savez, ce passage, d'ailleurs, qui est juste après dans l'évangile, on est au chapitre 7 de saint Luc, le passage du repas chez Simon, le pharisien, hein, avec la femme qui vient oindre, qui embrasse les pieds du Seigneur et qui vient les oindre, etc. Parce que dans ce passage-là particulièrement, Jésus ne regarde pas tout de suite cette femme. Il prend son temps avant de porter son regard sur elle. Elle est tellement, elle aussi, identifiée à sa souffrance que le regard que Jésus porterait sur elle risquerait aussitôt de la juger par rapport à sa souffrance et par rapport, alors en l'occurrence, son péché. Et donc Jésus prend son temps pour poser ce regard. J'ai retenu plutôt Jésus et la veuve de Naïm, on est au chapitre 7 de Luc, 11 à 17. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Là encore, on est avec une foule et Jésus. C'est toujours intéressant de repérer cela. La foule accompagne cette veuve. Elle est veuve, donc sa souffrance est totale, est complète. Alors, faut imaginer ce que c'est qu'une foule au temps de Jésus qui accompagne. L'expression du deuil est très théâtralisée. On va avoir des pleureuses professionnelles, on va avoir les joueurs de flûte, on va avoir un certain nombre de personnes qui sont là où on manifeste extérieurement le deuil en accompagnant quelqu'un vers justement le lieu de la sépulture. Donc le deuil, il fait l'objet à ce moment-là de quelque chose de tellement théâtral, et c'est ça qui est intéressant, que ça n'est pas nécessairement l'expression d'une compassion. Parce que là aussi, il y a un vrai contraste. Une foule importante accompagnait cette femme, donc vous imaginez, et ça fait du bruit. Et en face, Jésus fut saisi de compassion. Et donc, voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion. Et donc, ce qu'il y a d'important, c'est justement ce que nous montre là saint Luc. La foule peut bien accompagner, elle peut accompagner tout extérieurement. C'est la manière dont Jésus pose son regard sur cette veuve, sur cette femme qui souffre. C'est la manière dont Jésus pose son regard sur elle qui exprime pleinement la compassion. C'est pas tout le tintamarre extérieur, si vous voulez. C'est pas tout le folklore qui accompagne. c'est le regard de compassion, c'est le regard qui provoque même, c'est la manière que Jésus a de regarder est à même de provoquer en lui la compassion. Évidemment, cela demande de notre part cette manière de poser son regard, d'aller au-delà, c'est-à-dire que justement, à nouveau, la personne n'est pas identifiée à sa souffrance, la personne est saisie dans sa totalité comme une personne. Donc là, il y a un élément profondément un élément essentiel. Là encore, d'ailleurs, absent de parole, absent les seules paroles que Jésus va exprimer, c'est ce « ne pleure pas ». Dans l'évangile, des mots d'une très très grande sobriété, il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles, le regard on a plus dit. Plus dit est de l'ordre de la compassion, mais la compassion n'est pas non plus une condescendance. Pour nous, il faut faire très très attention. Notre compassion est parfois condescendance. Or, c'est cette condescendance peut beaucoup plus blesser la personne qu'elle ne la guérit. Celui qui souffre ne cherche pas de la condescendance, mais un regard qui, le vrai regard de compassion, qui est capable de saisir justement comme une personne. Le regard de condescendance, si vous voulez, c'est celui qui s'arrête au mal. Oh mon pauvre, si tu souffres. Le regard de compassion est un regard de réconfort. Il s'accompagne, avec Jésus en l'occurrence, de ce « ne pleure pas ». La compassion, elle est cette manière. Et là encore, notre regard doit être le témoin de la manière dont Dieu a compassion, dont le Christ a compassion de la personne. C'est parfois difficile, hein, face à la souffrance, face à la personne qui peut être défigurée par la souffrance, passer au-delà de nos regards légitimes en soi de rejet, nos regards de personne qui connaît qui peut connaître une déchéance, etc. Il y a tout quelque chose. Donc il y a toujours d'abord, et c'est pour cela que c'est important, notre regard à convertir. C'est un regard qui n'entre pas dans le jugement, dans l'évaluation des symptômes ou des effets de la maladie, de la détresse, etc. Mais un regard qui est profondément renouvelé, transformé pour être capable de se poser avec la compassion même du Seigneur. Et en fait, on retrouve ça, je vous disais, un peu plus loin dans le chapitre 7 de ce même chapitre 7 de Saint-Luc, lorsque Jésus se retourne finalement et regarde la femme pécheresse en question, c'est pour lui donner à nous là une parole, non pas par rapport à son péché, mais une parole par rapport à son salut. C'est très intéressant. Et soyez souvent attentifs, et alors Saint-Luc en joue beaucoup de ce contraste, et Saint-Marc le faisait aussi, voilà, la foule, on peut être, choisir entre le regard de condescendance ou le regard de compassion. Et ainsi, c'est finalement la troisième attitude de Jésus, mais tout y converge, tout y converge en soi. C'est pouvoir redonner sa dignité à la personne. Redonner cette dignité parce que c'est bien ce que la souffrance, justement, ne fait pas perdre. Redonner, je me suis mal exprimé. Il faudrait plutôt dire, vous voyez tout en vous le disant, il faudrait plutôt dire permettre à la personne de découvrir qu'elle est toujours digne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas lui redonner, la dignité elle n'est pas perdue. C'est une bêtise de le dire. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai mon titre est mauvais. C'est pas redonner. La dignité, elle l'a. Mais permettre à la personne qui souffre de saisir qu'elle a conservé cette dignité. Que cette dignité n'est pas enfouie, disparue, anéantie par la souffrance, par la maladie, par la détresse psychologique, physique, peu importe. Mais ça, c'est extrêmement important. En vous disant redonner sa dignité, ben, vous voyez, il faut que je trouve un autre terme. Et voilà. C'est ouvrir la personne à sa propre dignité. Et c'est ce qui se passe. Je reviens chez saint Marc, à la fin du chapitre 1, versets 40 à 42. Et c'est ce qui se passe de Jésus vis-à-vis du lépreux. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Saisi de compassion, on a à nouveau la compassion du Seigneur, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Vous savez bien toute la symbolique de la lèpre, etc., mais le geste du Seigneur, c'est-à-dire le toucher, en touchant la personne, en touchant le lépreux, Jésus, clairement, ben justement, lui dit, tu n'es pas un intouchable, comme on l'entend, c'est-à-dire, tu es toujours digne, tu es toujours une personne. Le geste du Seigneur exprime prioritairement, ce qui ne peut pas être anéanti, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. Rien ne peut retirer cette dignité pour Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre, hein, de la juste compassion. C'est-à-dire permettre à la personne de faire émerger son je au-delà de la souffrance. Souvent, tout reste un « je souffre ». Et le souffre, cette expression, la souffrance, et devient tellement, et à juste titre, hein, devient tellement omniprésente qu'elle obnubile totalement et qu'elle cache, elle anéantit, elle cache le reste. Mais je reste celui qui est malgré ma souffrance. C'est réussir à le dire. Je peux toujours dire j'aime, je crois, j'espère. Je peux toujours employer ce je, sans pour autant qu'il soit nécessairement je souffre. Et là, il y a quelque chose de réellement important, c'est faire émerger dans le cœur. Et vous comprenez que là, avec ces trois attitudes du Seigneur, il n'y a pas tellement de paroles. Il n'y a pas tellement de paroles de sa part. Puisqu'en l'occurrence, on a besoin d'une oreille pour écouter, on a besoin de nos yeux pour regarder son jugement et on a besoin de notre main pour toucher la personne. C'est pas ce qui est venu de la bouche qui a été premier dans ces trois attitudes du Seigneur, mais vraiment, ce sont d'autres sens qui sont mis, ce sont les autres sens qui sont mis en mouvement. Notre monde est tellement bavard qu'on sait plus très bien comment s'en sortir sans la parole. Eh bien, justement, c'est là qu'il y a. Et à partir de là, à partir de ces attitudes du Seigneur, l'écoute, le regard, le geste qui révèle la dignité de la personne, à partir de là, on peut estimer possible, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, on peut estimer possible à la personne qui souffre d'entrer dans un chemin de sens. Je dis bien un chemin de sens. C'est-à-dire, on va pas lui donner un sens. C'est pas un discours tout fait sur, ben voilà, si tu souffres, voilà le sens profond, etc. Ça, je vous le redis. Mais je peux, à ce moment-là, permettre à la personne, mais dans les attitudes du Christ, en ayant posé les attitudes du Christ, je peux permettre à la personne d'entrer dans une possibilité de cheminer pour trouver avec Dieu une paix par rapport à l'épreuve, un sens par rapport à l'épreuve. C'est jamais la souffrance pour elle-même qui a du sens. Faut faire attention. La souffrance en tant que telle, le mal et la souffrance n'ont aucun sens. Je veux dire, aucun sens, je ne peux absolument pas mettre la notion de sens de l'ordre de ce qui n'en a pas, ce qui est le non-sens par excellence. En revanche, le combat que l'on mène, le combat mené par exemple contre la maladie, c'est pas la souffrance qui va avoir du sens, mais le combat mené pour lutter contre la maladie. Vous comprenez, ça c'est vraiment important. Et donc je ne peux pas plaquer, je ne peux certainement pas plaquer un discours, mais simplement offrir à la personne, voilà, je ne peux pas me mettre à ta place. Mais le Christ est avec toi dans ce combat. C'est avoir c'est finalement peut-être le seul, et c'est même pas c'est même pas un discours, c'est permettre à la personne de le comprendre. Être un compagnon de route, accompagner, c'est cela. Être un compagnon de route en disant je peux pas me mettre à ta place. En revanche, je suis là avec toi et ma présence est aussi là pour te montrer que le Christ est là. Il n'y a jamais de raison, de sens à la souffrance, mais très souvent, et c'est là, un combat à mener. Pour ne pas être, d'abord pour que la personne ne soit pas réduite à cette souffrance. Alors là aussi, faut faire attention, parce qu'on passe rapidement, là je ne peux pas le déployer, terriblement, enfin voilà. Et pour vous dire, je commence à avoir une migraine là épouvantable, donc je vais essayer je vais à l'essentiel et je vous en demande pardon. Voilà, mais c'est aussi quelque chose, il ne faut pas non plus rapidement déployer la notion de combat spirituel, on traverse un combat, enfin, vous voyez, là aussi, ça peut vite être des mots très très vides. Non, c'est offrir à la personne d'être avec. C'est profond dans le temps de Noël qu'on vit, puisque c'est le sens vraiment de l'Emmanuel. Et réussir, non pas à parler, mais réussir par la présence, par les gestes, par un grand nombre de signes, à ouvrir un chemin, voilà, de sens. C'est vraiment l'enjeu. Maintenant, on peut inverser nos deux questions du départ, mes deux écueils. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? La réponse par les attitudes qu'on peut avoir, c'est d'assurer la personne que le bon Dieu fait, de ce que le bon Dieu fait pour elle. Vous voyez, c'est d'inverser la chose. Ce que le bon Dieu fait pour elle, ce que le Christ fait pour elle, eh ben passe, voilà, par cette dignité qu'elle ne perd pas. Par ce regard, par ce geste, par cette écoute. Et d'autre part, on peut aussi inverser il faut l'offrir. Mais ce que l'on offre à Dieu, c'est dans le, je l'ai pas noté là, c'est le chapitre 12 de l'épître aux Romains. Je vous exhorte, frères, à faire de vos vies. Voilà. Alors, on va avoir, selon les traductions, un sacrifice, une offrande. C'est la vie entière qui s'offre au Seigneur. C'est pas simplement nos souffrances. C'est nos joies, c'est notre existence. L'existence ne se résume pas aux épreuves que l'on traverse. Enfin, ce serait terrible, sinon. Vous imaginez, on prend les biographies des personnes, dans ce cas-là, on retient que les épreuves. L'horreur. Pour les plus grands saints, si on ne retient que ça, heureusement que les voilà. Non. Justement, ces moments de grande joie, ces moments d'allégresse, ces moments de tout à l'intérieur de l'existence humaine se tourne et s'offre vers Dieu. Et la souffrance donc ne résume pas l'existence, mais est une partie parfois prégnante, parfois pesante pour la personne. Mais la souffrance, c'est pas elle qu'on offre, c'est une vie avec, oui, sa souffrance. Mais là, même pour ça, il faut déjà avoir fait un profond chemin spirituel pour pouvoir y arriver. Comprenez bien. Et c'est pas un truc que l'on dit comme ça à quelqu'un, t'as qu'à offrir toute ta vie. Notre vie entière doit être offerte. Et celui qui souffre et qui peut ressaisir sa propre dignité à ce moment-là, peut voir que sa vie a toujours du prix. Et c'est ça, en fait. Car tu as du prix à mes yeux. Voilà un peu ce que je vous demande pardon d'avoir résumé. Je suis exténué d'avoir résumé. Voilà un peu ce que je voulais vous faire parcourir. Donc, parler de la souffrance interdit, point d'interrogation, oui. Oui, il s'agit de ne pas en parler, mais d'accompagner. Il s'agit de savoir se taire, mais par les attitudes du Christ, savoir profondément, voilà, redonner à la personne sa dignité. Et lui permettre de sortir, voilà, de cette souffrance. J'espère avoir été clair. Je vous demande pardon si je l'ai pas été davantage.
Merci, Pierre. Vous avez été très clair.
Merci à vous. C'est très étrange à faire un cours comme ça, mais c'est bien. Vous étiez très studieux à Vannes.
Nous aussi, à Lorient aussi.
Vous ne voyez pas à Lorient, donc je le suppose.
Mais non, il ne nous voit que moi. Père Georges-Henri, vous avez le courage pour une ou deux questions ou on termine là et...
Je peux essayer, dites-moi. Voilà.
Bon, est-ce que Van a des questions? Est-ce qu'ici il y a des questions?
On t'en profiter, je fais plus de.
Tant que vous n'êtes pas à l'agonie.
Ah, c'est bon.
Non. On vous laisse tranquille, Avan, Philippe.
Est-ce vous avez que un magnifique dossier.
Oui.
Alors, je vais vous retrouver ça. Excusez-moi. Sur Internet, un très beau dossier, très complet, avec beaucoup d'interventions sur le site. Alors, je vais vous le dire, croire. Point La Croix, en fait, c'est vous savez, les cahiers Croire qui sont liés au journal La Croix. Donc, croire.la, trait d'union de le 6, croix.com. Et là-dessus, vous avez quelque chose de très, très dense. Beaucoup de réponses. Je me suis beaucoup inspiré de là. J'ai trouvé ça plus simple parce que les ouvrages théoriques, voilà, j'en ferai pas. Sur ce site-là, vous avez, voilà, les chrétiens sont-ils doloristes, est-ce qu'il faut offrir, enfin, toute cette question d'offrir, et ça vous permet d'avoir un bon résumé.
Bon, merci.
Je vous remercie infiniment.
Philippe, il n'y a rien de l'autre côté, tu dis au revoir.
Il n'y a pas de question.
Ah, le thème du dossier, Père Georges-Henri, c'est la souffrance.
Je vais vous retrouver ça tout de suite, excusez-moi.
Non, t'as pas besoin.
Alors, je vais vous retrouver ça. Vous avez plusieurs choses. Vous avez entre autres un très très bien qui se... En fait, avec le mot souffrance...
Oui, avec le mot...
Mettez le mot souffrance et vous avez un grand nombre d'articles. Dieu permet... Alors, la question de la permission de la souffrance, je vous ai dit, ce n'était pas le but là. Mais vous avez entre autres cet article « Les chrétiens sont-ils doloristes ?» qui est de très très belle qualité.
D'accord.
Sur toute question, entre autres, hein, c'est le père Vincent Leclerc qui est assomptionniste et c'est lui qui répond. C'est une reprise d'une émission de Radio Notre-Dame en fait et c'est de très belle qualité.
Ben, merci beaucoup. Reposez-vous bien. Et si vous avez besoin de quelque chose, sonnez-nous, on vous apportera vos victuailles parce que.
Merci beaucoup.
Bon courage. Merci beaucoup. Merci à Van. À la prochaine fois, Van. 1er février. La prochaine fois, c'est le 1er février avec le village Saint-Joseph de Redon et de Cléguérec. Donc, nous aurons un regard sur l'accompagnement. Mais un autre. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir à tout le monde.